Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial d'Histoire de Daron. J'accueille Harold, qui est sage-femme dans la maternité qui donne naissance au plus grand nombre de bébés en France. J'ai nommé Jeanne de Flandre à Lille. C'est d'ailleurs là que nos deux filles sont nées et le personnel était vraiment top. Harold m'a envoyé un mail début 2018 pour me proposer de répondre aux questions des lectrices et lecteurs à propos de la maternité. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, petite parenthèse, mon Instagram perso c'est fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, vous avez peut-être vu passer ce post où je vous proposais de poser des questions à Harold. Voici donc les réponses à vos questions dans cet épisode. Un immense merci vraiment à Harold pour son temps, sa disponibilité et sa gentillesse. Si vous avez suivi Histoire de Daron cet été, vous devez sans doute savoir que ce podcast va devenir une partie intégrante de mon nouveau projet de magazine à qui j'ai donné comme nom de code temporaire Projet Madame. Il va sortir dans quelques mois, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre newsletter dans le lien que vous trouverez dans les notes de ce podcast. On va vous envoyer très bientôt des questions, mais aussi des infos pour suivre la progression du projet. Si vous aimez Histoire de Daron, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou encore Podcast Addict sur Android. Mais aussi, vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Vous retrouvez tous ces liens dans les notes de cet épisode. Et n'oubliez pas, même si vous écoutez en podcast, venez me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube, ça me fait toujours un immense plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Voici la session questions-réponses en compagnie d'Harold. On est avec Harold, salut Harold.
Salut.
Ça va ?
Ça va.
Harold, tu vis à Lille ?
Ouais.
Et tu m'as envoyé un mail ?
Eh ouais.
Pour me dire, vas-y viens, on fait un truc spécial.
C'est ça.
Futur papa.
C'est clair.
T'es sage-femme dans la vie, c'est ça ?
Ouais. Ouais, je suis sage-femme, ça va faire 8 ans que je travaille, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais faut que je le dise quand même. Je suis à Jeanne de Flandre.
Pourquoi t'aurais pas le droit de le dire, je pense ?
Moi, je sais pas, la direction, les fonctionnaires, tout ça.
Ah, ok.
Donc, je suis fonctionnaire titulaire à Jeanne de Flandre, on est la plus grosse maternité de France, je crois.
C'est vrai ?
Ouais.
Moi, je savais pas.
5730 naissances à la dernière, au dernier comptage.
Au total. C'est énorme.
Ouais. Et voilà.
Et toi, t'as fait combien de naissances au total ?
J'ai arrêté de compter au bout de 6 mois parce que.
Ça te fait quoi ? Ça te fait une naissance ? Non, plus que ça.
Je fais partie de l'équipe de sages-femmes qui tourne un petit peu sur l'ensemble des services. Ce qui fait que je fais beaucoup de blocs, je fais beaucoup d'accouchements, je suis beaucoup de gens. Mais je suis aussi des patientes qui sont en suite de naissance. Je suis des patientes qui sont en grossesse pathologique avant. Donc, même si c'est pas des bébés que j'ai vu de visu, ça fait beaucoup de bébés, ouais.
Ok. Bon, qu'est-ce qui t'a décidé à devenir sage-femme ? Parce que c'est pas forcément, dire classique d'avoir des mecs qui se lancent dans ce métier. Déjà de base par le nom, qui s'appelle sage-femme, voilà. Et d'ailleurs, ça se dit sage-femme.
On peut dire maïeuticien, oui. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est qu'une sage-femme. Donc, non, la base, c'est que quand j'ai accepté le choix de sage-femme, c'était à l'issue de la première année de médecine. Donc, quand j'ai dit oui à sage-femme, je savais même pas ce que c'était.
Ah ouais, ok.
En fait, j'ai fait 2 années de médecine. À l'époque, selon le classement, on avait le droit à telle ou telle place. À la base, j'avais fait médecine pour faire des études de médecine. J'ai été placé suffisamment bien pour pouvoir choisir entre dentiste et sage-femme. J'ai une aversion pour le dentiste et je suis jamais allé chez une sage-femme. Donc je me suis dit, je vais tenter, je verrai bien, je me fais un an et puis si ça me plaît pas, je ferai autre chose. J'avais déjà fait des préinscriptions à droite à gauche et bah, maintenant ça va faire 10 ans que ça s'est passé, plus de 10 ans que ça s'est passé tout ça. Et j'y suis encore. Donc.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier en particulier ?
C'est le contact. C'est que on est avec des gens qui sont pas malades, qui sont plutôt cool. C'est une bonne ambiance. Souvent, c'est des gens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, Et puis voilà, non, c'est un boulot qui est super sympa, hyper gratifiant. Comparé à des copains ou des copines qui, eux, ont continué dans leurs études de médecine, j'ai pas du tout les mêmes horaires qu'eux. Je suis officiellement aux 35 heures, ce qui fait que je fais ce qui me plaît et j'arrive à avoir une vie à côté, donc c'est plutôt cool.
Et ouais. Donc t'as toi-même un enfant, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ouais, un petit bonhomme de 1 an et demi, là, qui va avoir 2 ans en octobre.
Et tu l'as accouché?
À moitié.
À moitié.
À moitié. Alors, ouais. J'explique, c'est que j'ai aussi du coup la chance de bosser avec beaucoup de mes copines, parce qu'on est beaucoup de nanas. Oui. Ma compagne elle-même, elle est sage-femme.
Ah.
Elle vient de ma promo, donc on est le même cercle de copains. Ah. Et en fait,
vous êtes connus pendant vos études.
Ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, le jour J, on est allé bah, là où je travaille, donc ma deuxième maison. Les gens qui étaient de garde ce jour-là, justement, c'était des copains à nous. On a pu faire notre truc tranquille, à notre sauce, sans que personne nous embête.
Et alors, est-ce que tu as réussi en tant que papa, ça doit finir par devenir un peu ton quotidien de voir des enfants naître. Ouais. Est-ce que toi, en tant que père, tu as réussi à vivre vraiment ce truc-là? Parce que moi, je t'avoue que j'en ai pas vécu beaucoup, des accouchements à titre perso.
Ouais, non, si, alors après, ouais, il y a les vieilles... je veux dire, maintenant, pour moi, un accouchement, c'est, je vais pas dire que c'est du quotidien, mais c'est un acte qui est assez classique. Mmh. C'est sûr que pour des gens qui accouchent pas tous les jours, ça a une charge émotionnelle qui est hyper importante. Nous, on avait justement ce côté-là, je vois plus comme, c'est tout de l'inconnu qu'on n'avait pas, donc tout du stress qu'on n'avait pas, c'est des lieux que je connaissais, c'est au contraire, enfin, c'est quasiment comme à la maison pour moi. Alors après, bien sûr, il y a l'inconnu, il y a le stress de savoir comment ça va se passer, ça, bien sûr, comme tout ouais. Mon papa, je l'avais, mais je savais très bien tout ce qui était possible et tout ce qu'on aurait pu faire, donc aucune inconnue là-dessus. Et puis, de base, avec ma copine, on est plutôt, on laisse voir les choses, on se stresse pas, et puis voilà.
Bah. Ouais, puis j'imagine que vous devez avoir un peu l'habitude de ce fait-là, ça vous a un peu facilité la vie, j'imagine.
Carrément.
Pourquoi t'as envoyé un mail, en fait
Ça fait un moment.
C'était début d'année, hein, si
ouais,
je me trompe pas.
Ouais, ouais. C'était une époque où je découvrais le podcast. Et puis je découvrais toutes ces histoires de papa qui avaient vécu leur accouchement et tout ça. Et effectivement, moi là c'était encore tout frais. C'était Robin, il avait même pas encore 1 an. Mmh. Voilà, je me suis dit que. Avoir un daron, entre guillemets, qui, pour lui, c'est son quotidien. Voilà, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Moi, c'était un moment magique, et oui, c'était un des plus beaux jours. Mais il n'y a pas tout le côté surprise, le côté...
Bah oui. Et donc, tu voulais filer un coup de main au mec qui écoute éventuellement.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu bosses, toi, avec des futurs papas? En préparation ou pas? C'est quelque chose que
pas
tu
vraiment.
Fais
la structure veut qu'il y ait des cours de préparation qui soient déjà établis, que c'est des cours qui sont très bien faits, c'est des cours un peu classiques, avec des prépas sophro, yoga, classiques. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne pas mal. Après, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de préparations qui se font à l'extérieur de l'hôpital.
Okay.
En libéral, il y a beaucoup de sages-femmes qui organisent ça.
Okay.
Il y a de plus en plus de sages-femmes qui s'installent en libéral, qui organisent des trucs qui sont toutes avec des formations différentes. Donc il y a un choix dans la préparation qui est assez importante. Moi, dans mon exercice, je travaille surtout en service. Donc auprès de mamans qui sont soit hospitalisées en prénatal, donc pour des raisons X ou Y, et c'est à ce moment-là que moi je vois les couples. Et puis des fois je les vois directement en salle de naissance, qui n'ont aucune préparation. C'est des gens qui vont avoir cette naissance-là dans les heures qui suivent, et puis du coup on se fait une petite préparation accélérée. Mais okay. Du coup c'est du hyper personnalisé, donc c'est ça qui est cool.
Moi je me souviens quand mes deux filles ont accouché à Jeanne de Flandre, et il y avait on va dire une heure de cours de préparation spéciale pour les papas.
Ouais.
C'est un truc qui se fait toujours, ça, ou
non,
pas?
Non, ça se fait plus trop, ça. Ça dépend beaucoup des gens qui peuvent le faire, ça dépend des créneaux qui sont disponibles et tout ça. Dans certaines maternités ça se fait, il y a certaines sages-femmes libérales qui le font. Chez nous, je pense que c'est une habitude qui s'est perdue. Ou alors, je suis pas au courant, mais c'est plus quelque chose qui est...
Il y a un petit moment, c'est... Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était une femme en fait qui faisait ce truc-là, et ça avait été assez compliqué en fait de briser la glace, parce que autant entre femmes, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai eu la chance de participer au cours de préparation de ma femme, parce que comme je bossais de chez moi, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et c'est vrai que la différence de communication qu'il pouvait y avoir entre les femmes et entre les hommes, c'était dingue.
C'est pas pareil.
Les mecs, ils arrivaient pas à parler, quoi.
Et justement, moi, je vois cette différence. Enfin, pour les côtoyer souvent, on n'a pas le même abord. On a, enfin, le fait que je sois un mec, j'ai toujours un contact qui est différent et avec les mecs, avec les futurs papas, et avec les patientes, parce que j'ai pas ce côté qui est impersonnel. C'est que quand on va leur demander « t'étais avec quelle sage-femme ?» S'ils sont avec une de mes collègues, même si elles sont géniales et elles travaillent toutes super bien, peut-être qu'elles se souviendront du prénom, mais au bout de quelques années, ça va passer. Là, maintenant, enfin, j'ai encore des gens que j'ai suivis il y a plusieurs années et qui se souviennent de moi parce que j'étais le mec tatoué de la maternité. Il y a une époque, j'avais une barbe énorme, j'ai pas du tout la gueule de l'emploi, et du coup c'est ça qui est rigolo, c'est que d'emblée, moi, que je vais voir les couples, donc souvent ils sont dans leur chambre, ils sont hospitalisés, je tape à la porte, je dis bonjour, je suis la sage-femme, et là ils voient débarquer un type, on n'a pas des blouses roses, c'est des trucs un peu Bordeaux, lit de vin, mais enfin ils voient débarquer un mec comme ça, on va dire un type qui a piqué une blouse, quoi. Non, je suis vraiment sage-femme.
Je suis compétent.
Et voilà. Et du coup, souvent, c'est ça qui brise la glace. Et du coup, on n'a pas du tout le même abord. Et puis, le contact passe très, très bien.
Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pères qui écouteraient ce podcast et qui auraient envie de se préparer, mais qui n'oseraient pas parce qu'ils se disent c'est pas mon domaine.
Il faut, parce que il faut déjà se préparer. Enfin, c'est important de se renseigner, c'est important de prendre des infos. Maintenant, il faut faire attention de où on prend ces informations. Il ne faut pas aller chercher n'importe où, n'importe quoi.
Sur Internet.
Internet
en particulier.
Je ne vais pas citer de site, mais il y a des choses... Voilà, à part se faire stresser, prendre des mauvaises informations, ce n'est pas la bonne idée. Et après, à contrario, j'ai envie de dire, il ne faut pas essayer de tout comprendre. Que moi je dis souvent à mes patientes, c'est que en obstétrique et dans le milieu de la naissance et tout ça, il y a une grande partie où on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. On sait à peu près en général comment ça fonctionne, on sait que si je fais telle chose, ça va entraîner telle conséquence, mais on peut pas prévoir, on peut rien anticiper vraiment, et c'est ça auquel je pense qu'il faut se préparer. C'est que le côté naissance, et justement après, enfin, ça va être comme ça pendant toute la vie, de toute façon, mais il faut pas partir sur un préconçu de ça va se passer comme ça, elle va accoucher telle heure, ça va se passer, enfin non, il faut connaître des choses, c'est bien. Lâcher prise, c'est mieux.
Et puis, comme tu dis, c'est un bon entraînement
c'est clair.
Pour la vie après, parce que après, ça se passe jamais comme on l'a prévu, quoi. J'ai reçu quelques questions, puis après, on va rebondir dessus. Hein. Cool. Alors, moi, je voudrais savoir, en tant que future maman, pour intégrer au mieux le papa dans tout le processus de grossesse, de naissance et d'accompagnement du petit enfant, je voudrais éviter d'exclure le papa à cause d'un excès de fusion. Je vois que les jeunes mamans sont super inquiètes pour leur bébé et ont tendance à vouloir tout contrôler. Et moi-même, j'ai ce trait de caractère dans la vie en général. Alors ça, c'est un truc qui s'adresse plutôt aux mères. En tout cas, peut-être qu'on peut aussi, si on est un père, avoir cette discussion-là avec sa femme. Qu'est-ce que tu as envie de répondre?
J'ai envie de dire que tout va dépendre déjà de la façon dont fonctionne le couple. De fond, la future maman, elle a un côté un peu protectionniste sur son enfant, c'est quelque chose qui est normal. Dans un sens, il faut que le papa l'intègre et l'accepte. Il ne faut pas que non plus il se sente rejeté au profit de ce bébé qui arrive. C'est hyper difficile à anticiper. C'est la relation, enfin, surtout quand c'est un premier, on sait que ça va être hyper important, mais aussi bien sur le côté hormonal que sur le côté déficit de sommeil, on sait pas comment on va réagir, on peut pas savoir. Ce qui fait que c'est plus ça auquel il faut se préparer en tant que papa et puis aussi en tant que maman, c'est que chaque jour va être différent et il faut pas que parce que la maman aura pas dormi pendant deux jours, enfin je dis pas que ça arrive tout le temps, mais il faut pas que le papa prenne la mouche parce que tout de suite ce sera toujours pour le petit. Il faut pas qu'il se sente exclu. Et puis après, bah forcément, la réaction primaire qu'on aurait envie, c'est bon bah écoute, je vois que tu te débrouilles mieux, moi j'ai pas ma place là-dedans. Non, c'est le papa a peut-être autant de place que la maman près du bébé. Ce bébé a besoin aussi de son papa. Et c'est aussi important d'avoir deux figures auxquelles s'identifier, et d'avoir pas uniquement une relation avec maman. Alors après, il y a des bébés qui se développent très bien avec juste une maman, juste un papa, et voilà. Mais... Non, il ne faut pas trop anticiper ce genre de choses, je pense.
Alors, je ne sais pas comment t'as fait, toi, mais moi, je me suis vraiment battu avec ma femme pour qu'elle me laisse la place à l'époque. Et c'est sans doute un conseil qu'on peut donner aux mecs. C'est-à-dire, si vous avez envie de prendre cette place-là, il y a un moment donné où il faut lui dire, il faut lui redire, il faut lui re-redire, il faut lui dire, en fait, j'ai envie de participer.
C'est ça.
Et je sais que... Il
ne faut pas fuir, en fait.
J'ai un peu violenté, tu sais, à lui dire, non, mais j'ai vraiment besoin de
C'est ce que je disais, c'est hormonal. Ouais. C'est que y a une fusion qui sera faite avec le bébé et voilà, et c'est difficile de rentrer dans cette fusion là, dans ce couple là, même si on donne toute la bonne volonté du monde. Des fois, enfin, c'est maman lionne, quoi, c'est elle va être vraiment protectionniste sur l'enfant, mais voilà, il faut montrer que non, on a aussi notre place et que on a envie de participer à tout ça. Mais la façon entre guillemets naturelle de réagir, c'est bah je vois qu'elle se débrouille toute seule, moi je vais faire mon truc dans mon coin. Je vois que ça, c'est plus quelques mois plus tard où ça risque de
et ça se joue dès les premiers jours en plus. On a tendance à se dire c'est pas grave, je reviendrai plus tard et je rattraperai mon retard entre guillemets, mais je pense que c'est super dur de le rattraper. T'as déjà vécu, toi, après peut-être la naissance, en tant que sage-femme, vous gérez ce genre de conflit dans le couple ou pas?
Non, pas vraiment. On voit, on a le contact avec les couples au moment de la naissance. Ouais. Après, moi, j'ai fait beaucoup de suites de naissance aussi. Donc, je voyais un petit peu comment les couples étaient. Il faut savoir que maintenant, les séjours de maternité sont de plus en plus courts. Ouais. Donc, c'est un petit peu difficile. Il y a une étape qui est capitale après la naissance. C'est 48-72 heures après. Il y a une chute d'hormones qui est assez terrible. Il y a vraiment une pseudo-dépression qui peut apparaître. En plus, c'est le moment où la montée de lait arrive. C'est le moment où le bébé, justement, s'éveille un petit peu, commence à vraiment réclamer et à vraiment avoir besoin de contact. Là, c'est difficile. La maman, forcément, va avoir une action protectrice, va vraiment essayer d'entourer au maximum le bébé. Papa peut se sentir un petit peu exclu. C'est notre rôle aussi de faire la balance s'équilibrer un petit peu, de montrer que le papa peut aussi faire des choses, que la maman n'est pas vouée corps et âme à son bébé et a le droit aussi de souffler un petit peu, de laisser papa prendre. Ça, c'est important. Mais c'est aussi important que ce soit l'équipe qui en parle aux parents, parce que ça va pas de soi des fois.
Et c'est là qu'on voit qu'on est des animaux quand même.
Ah ouais. Ah bah clairement. Ah bah enfin, c'est dans notre profession, j'ai l'impression dans l'ensemble des professions médicales, on a une notion de la vie, de l'équilibre, de la vie, de la mort. C'est quelque chose qui est terrible. Et puis ouais, on est vraiment des animaux. Vraiment.
Contrôlés par ses hormones.
Non mais. Est-ce que ce qu'on en croit, est-ce qu'on veut l'accepter, c'est clair.
Alors, j'ai une personne anonyme qui me dit « Ma femme souhaite accoucher sans péridurale et je compte l'aider du mieux que je peux. Nous avons d'ailleurs opté pour l'aptonomie. » Alors,
L'aptonomie, c'est une façon de se préparer à la naissance en prenant contact avec le bébé. Donc, c'est beaucoup sur le toucher, c'est beaucoup de mettre des relations en place avec la maman et le papa, déjà pendant la grossesse, avec beaucoup de massages au niveau du ventre, accompagner le bébé dans des mouvements, et pendant surtout le travail et l'accouchement, de l'accompagner dans la descente. Et si c'est souvent quand la préparation est très bien faite, ça fait des très beaux résultats. Oui.
Et alors, il parle aussi de la méthode Bonaparte, que je connais pas.
Alors, c'est Bonaparte.
Bonaparte.
Ça, on le voit un petit peu moins souvent parce qu'il y a moins de professionnels qui sont préparés. Alors, moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais de ce que j'en sais, l'idée, ça va être de détourner les notions de douleur de la maman vers autre chose. C'est-à-dire décentrer la douleur de la contraction vers des autres sensations. Et ça, du coup, bah, c'est beaucoup de préparation mentale derrière. C'est certaines petites manipulations qui peuvent provoquer des douleurs, mais ailleurs, donc par exemple sur les bras, sur les poignets, et qui sont faites au moment des contractions, ce qui permet de détacher la maman de la douleur et qu'elle puisse rester dans le travail. Okay. C'est intéressant.
En tant que père, tu la pinces, c'est ça?
Ouais. Ouais. C'est vrai. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a certains points de ponction qui sont particulièrement douloureux, dont un qui est ici, sur l'intérieur du poignet, où les recommandations, c'est de créer cette stimulation douloureuse chez la maman.
Ok.
Donc souvent, du coup, c'est le papa qui, quand il fait partie de cette préparation-là, peut avoir ce rôle. Okay. Donc, ça et l'aptonomie, c'est vrai que c'est des préparations géniales puisque ça donne un rôle au papa. Ça l'intègre dans le processus du travail. Il n'est pas juste là en tant que spectateur à voir sa femme qui souffre parce que... Enfin, c'est pas dit... Non, je vais corriger. Elle ne souffre pas, elle a juste mal. Ce qui est important, c'est ça. C'est de faire la différence entre de la souffrance et de la douleur. C'est que... le bébé, les contractions provoquent des stimuli qui sont douloureux, mais la préparation en anténatale fait que il faut voir ça comme quelque chose qui est positif, que c'est dans un objectif, que c'est dans un but, et que c'est défini dans le temps, ça commence à un moment et ça se termine à un moment. Et généralement, à la fin, on a plutôt une bonne récompense. Et quand c'est des choses qui ont été intégrées par les couples... c'est beaucoup mieux vécu plutôt que elle a mal, fait quelque chose, vite, tu lui faut une péridurale.
Ah ouais, j'ai envie de crever, etc. J'entends bien le truc.
Ouais, ouais.
Justement, tu vois, il dit qu'ils ont opté pour l'aptonomie et la méthode Bonaparte, ouais, afin que lui puisse être actif.
C'est ça.
En complément, aurais-tu des conseils pour m'aider à accepter la douleur qu'éprouvera ma femme sans me laisser submerger par mes émotions?
C'est ce que je disais. Enfin, il faut être préparé à voir celle qu'on aime souffrir. Enfin, souffrir, avoir mal. Parce que c'est vrai, c'est un petit peu déstabilisant parce que le rôle du papa à ce moment-là, même s'il l'aide à supporter ses contractions, supporter ses douleurs, on a juste un rôle de support. On n'est pas du tout... on ne peut pas intervenir dans le délai, on ne peut pas intervenir sur réduire les contractions, réduire la douleur, c'est impossible. Et c'est ça qu'il faut accepter, c'est que il faut se dire on va être à deux, effectivement tu vas avoir mal, mais je serai avec toi, je vais pas lâcher. Je sais personnellement que pendant l'accouchement de ma copine, j'ai été broyé une paire de fois au niveau des poignets, tout ça. C'est tout, on l'accepte. On peut apprendre certains petits massages intéressants au niveau des lombaires, au niveau du dos. Il faut pouvoir lui dire, proposer un peu ta soif, tu veux écouter quelque chose, est-ce qu'on peut faire ça? Bon, alors après, il faut aussi accepter que on s'envoie mais balader dans les 6 mètres. et généralement, de passe façon très polie quand on propose des choses comme ça, mais c'est tout. C'est tout. C'est pas nous qui accouchons.
Ouais, bien sûr.
Mais il faut être là et il faut pas se dire c'est tout, elle m'a envoyé bouler, j'ai passé un truc dans mon coin et j'attends que le gamin arrive.
Moi j'ai découvert la souffrance par procuration vraiment pendant la. J'avais jamais éprouvé ce truc-là. Mmh. C'était vraiment très bizarre.
Il y a beaucoup de papas qui ont du mal à supporter ça parce que ils ont rarement vu des gens vraiment souffrir et ils peuvent rien faire. Mmh. Et en plus, là, c'est la personne qu'ils aiment le plus. C'est hyper compliqué. Alors, on voit tout. On voit des papas qui sont résignés. On voit des papas qui font des malaises. On voit des papas qui deviennent agressifs. Mais tout ça, ça peut être balancé avec une préparation en amont. Si on sait que pendant un temps duré, il va y avoir ces douleurs-là et qu'on peut faire ça, on y va.
Enfin, moi, je me suis fait sortir de la salle parce que je commençais à devenir pâle. Et elle m'a dit, monsieur, vous êtes en train de vous... Ouais. Et je pense que c'est un truc qu'on m'avait pas dit. C'est-à-dire que si on m'avait dit, en fait, quand tu commences à pas être bien... Ouais. N'en rajoute pas à l'équipe médicale et barre-toi. J'avais une sage-femme géniale qui m'a dit « Monsieur, vous commencez à être vraiment pâle, vous n'allez pas commencer à tomber dans les vapes alors qu'on est en train de faire accoucher votre femme. »
On s'occupe d'une personne.
Sortez, aller prendre l'air. Et en fait, ça m'a fait du bien. Bon, j'ai raté la naissance de ma fille, mais peu importe. En fait, j'ai pas été un gros boulet à m'effondrer à côté, quoi.
Ah bon, on a eu des pertes d'expérience de papa qu'on retrouve à faire des malaises. Généralement, alors je sais pas, j'explique pas cette science, mais on a un évier, enfin un lavabo dans la salle de naissance. Alors je connais pas cette force qui fait que quand un papa tombe dans les pommes, il a toujours son crâne qui va en direction du lavabo et une fois sur deux qui va s'exploser. Donc peut-être qu'il essaye de s'appuyer dessus, mais à chaque fois il va s'exploser la tête quand ça...
En plus.
Et du coup, on est en train de gérer et un papa qui est par terre et une maman qui contractait un accouchement. Et généralement, après l'accouchement, on met maman avec bébé sur la table d'accouchement tranquille. On met papa sur un brancard à côté. Ils sont mignons tous les trois et on les laisse.
Mais c'est une bonne chose de le dire, je pense. En fait, si vous commencez à tourner de l'œil, barrez-vous, c'est pas grave.
Il n'y a pas de jugement. C'est pas important. Enfin, c'est important d'être là, c'est important d'être présent, mais enfin, il faut aussi accepter ses propres limites. Faut peut-être garder une chaise pas trop loin, un fauteuil pas trop loin. Non, mais moi, ce que je fais quand
ça sort par terre.
Non, mais c'est tout bête. Mais quand moi, je m'installe pour un accouchement, systématiquement, je vais dire au papa, voilà, vous pourrez rester ici si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça. Et systématiquement, je rapproche le fauteuil parce que voilà, on. Même pour le papa, c'est pas agréable de s'entendre dire « Asseyez-vous, monsieur, vous êtes tout blanc. » Enfin, non, c'est, je le dis avant. Généralement, plus moi, j'ai l'habitude maintenant m'installer très bas pour les accouchements. Donc, généralement, je travaille assis, petite lumière tranquille, un petit peu de musique. Et voilà, ce qui fait que si le papa, il est installé à côté, assis, voilà, ça choque pas maman. De toute façon, maman, il a autre chose à faire que de regarder comment il est installé à côté. Et puis voilà, ça se fait très bien.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, bon, alors, je ne sais pas comment tu t'appelles anonyme, mais voilà des conseils.
Pour courage anonyme.
Pour t'aider à accepter la douleur, il faut... C'est l'histoire de la vie, je pense. Une fois que tu as décidé d'avoir un enfant, après, tu vas avoir ton enfant qui souffre aussi, parce que peut-être il va être malade, etc. Donc, faut pas trop espérer, mais ça fait partie du jeu, quoi. Au secours. Alors moi j'ai une question essentielle, me dit Maxime. Est-ce qu'il faut aller assister à l'accouchement du, il met entre guillemets, mauvais côté? Parce que j'ai un pote qui a assisté du côté chatte en mode je suis un warrior, rien ne m'arrête, et il m'a dit le fais pas, je suis traumatisé.
Non, faut pas faire ça. Faut pas faire. Enfin, déjà,
pourquoi
il y a aucun intérêt.
Pourquoi faut-il
Déjà, pourquoi faut le faire Non, non, non. Enfin, il y a aucun intérêt à part se faire dégoûter. Je pense qu'il y a une magie qu'il faut conserver. Il y a pour nous la notion de pudeur, elle est hyper importante. Quand je dis c'est une petite lumière tranquille, on essaie de mettre le moins de monde possible dans la salle. Bon. De temps en temps, on a quand même besoin de personnel en plus, que ce soit un anesthésiste, un médecin, une auxiliaire de puériculture ou une autre sage-femme. Mais on va essayer vraiment de minimiser au maximum. Et c'est aussi pour le papa, quoi. C'est que je pense que si on mettait le papa à quatre pattes, allongé sur le dos avec le bas enlevé, je suis pas sûr que la maman aurait envie d'aller de l'autre côté, quoi. C'est pas intéressant. Non, il faut. C'est pas sa place.
Alors ça... toi, tu recommandes pas carrément, même s'il y a des mecs qui disent.
Enfin, j'interdis pas, mais. Déjà, pour nous, en tant que pro, moi, personnellement, ça me dérange. Mmh. Ça me dérange d'avoir quelqu'un qui est à côté de moi. On a eu des mecs qui filment avec leur téléphone et tout ça. Enfin, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est leur femme. La maman, elle est consentante, pourquoi pas, si c'est leur délire. Mais où est l'intérêt, quoi? Où est l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film après? Enfin, ils vont pas le montrer. Regarde, c'est l'anniversaire de tes 8 ans, je vais te montrer le film de ta naissance. Enfin, non. Non, tu fais pas ça, quoi. Non, enfin... Non. ma réaction sert à non.
Je pense que d'une manière générale, en fait, vous êtes obligé de rien faire, quoi.
On est obligé...
Pourquoi se coller des contraintes comme ça, c'est fou?
Des contraintes.
Lui, il dit, est-ce qu'il faut assister?
C'est un challenge. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un délire masculiniste de se dire, tiens, je vais regarder, j'ai jamais vu ça, ça va être magnifique. Enfin, tu vois, sur Internet, il y a plein de vidéos, t'es pas obligé, le jour de la naissance de ton enfant, d'aller te mettre en mode spectateur, tiens, je vais faire une découverte. Non, c'est pas ni le jour ni le moment pour faire ce genre de découverte. Non.
J'entends ce que tu veux dire. Alors moi perso, j'étais à côté, ça m'a déjà bien suffi, quoi, vraiment.
Ouais, mais c'est ça. Et puis après, moi je sais que dans ma pratique, je demande aussi, je fais participer les papas. Je veux dire, on va pas laisser le papa dans son coin et puis gérer juste la bouteille d'eau, le brumisateur. Enfin, systématiquement, je vais demander s'ils veulent le couper le cordon, je vais demander s'ils veulent voir le placenta, l'examen du bébé après la naissance, pareil, je demande à ce que le papa il soit là. Donc vraiment, tout ce qui est important qu'il voit, ou même pour la curiosité, c'est vrai que ça... Enfin, qui a déjà vu un placenta? Il n'y a pas grand monde. Juste de faire le voir. Et puis moi je sais que quand je le montre, j'explique vraiment à quoi ça sert. Voilà, ça c'est le cordon, ça c'était penché ici. Et voilà, enfin c'est vraiment de la belle mécanique. Enfin, quand je dis on est des animaux, c'est vraiment ça.
Mais... C'est de la belle mécanique, t'as dit.
On est des belles machines quand même. Mais non, enfin, ça, il y a aucun intérêt, même scientifique, à juste aller mater. Enfin, c'est juste pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant.
Oui. En revanche, je pense que moi, j'ai un souvenir où la sage-femme, elle a insisté 2-3 fois en fait, alors que j'avais pas envie. Donc vraiment, le faites pas si vous en avez, pour couper le cordon.
Ah oui, ah oui, non, bien sûr.
Le faites pas. Ah ouais, vraiment. Heureusement, j'ai juste dit laissez-moi tranquille. C'est votre métier.
Et je pense que l'idéal, c'est d'en parler avant.
Oui.
Et même, je pense que aller en travail encore, même qu'on n'est pas installé pour l'accouchement, c'est important d'anticiper ce genre de choses, d'expliquer à la sage-femme qui s'occupe de cette future maman, de se dire, nous on avait réfléchi, moi j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça vous pensez que c'est possible? Et puis voilà, comme ça au moins, au moment de l'accouchement, c'est des choses qui se font naturellement et il n'y a pas de stress à se dire, ah oui mince, j'y avais pas pensé, je le fais pas. Généralement on dit, non, j'ai pas envie de le faire, et au final c'est un regret derrière. Non, il faut essayer d'anticiper un petit peu.
En fait, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on se dit que c'est pas le moment d'embêter, etc. Et tu vois,
nous, on est là pour faire que ce soit le meilleur souvenir possible et que ça se passe le mieux possible. On veut que quand ils y repensent une semaine, un mois, un an plus tard, ils aient pas de regrets et de se dire, ah bah tiens, si j'avais su, j'aurais peut-être fait ça. Ou pour ça que nous, on va toujours essayer au maximum de répondre à ces attentes-là. Des mamans qui ont envie d'accoucher dans telle position, ok, pourquoi pas. Nous, on est contre rien. Il y a beaucoup, en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup ce qu'on appelle des projets de naissance. C'est très à la mode en ce moment.
Des quoi?
Alors, projets de naissance.
Des projets de naissance.
Ouais. C'est-à-dire que c'est des couples qui, sur une feuille de papier, vont noter une liste un petit peu des choses qu'ils voudraient pouvoir faire ou des choses qu'ils ne veulent pas faire pendant le travail, pendant l'accouchement.
Okay.
Et ça, c'est de plus en plus souhaité par les équipes parce que ce que je disais, c'est que c'est anticipé. On fait les choses de façon organisée, puis au final, ça roule tout seul, parce que justement, ils l'ont demandé en amont. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que, autant il y a quelques années, bah, c'était des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, qu'on entendait il y a peut-être une petite dizaine d'années, projet de naissance, on se disait, oh là, qu'est-ce qu'on va encore. Ça va être des histoires de. Des trucs un petit peu loufoques. Autant maintenant, les projets de naissance qu'on trouve sur Internet, enfin, il y en a d'étouffés, il y a des idées, il y a des pistes. Maintenant, dans la pratique quotidienne et habituelle des sages-femmes et des équipes, c'est, j'ai envie de dire, c'est le menu de base, quoi.
Ok.
Donc, souvent, on reprend la liste et puis on dit, donc ça, oui, effectivement, ça, il n'y a pas de problème, c'est fait d'emblée. Je pense, par exemple, le pot à pot ensuite de naissance. C'est vrai qu'il y a quelques années, on prenait le gamin directement, on allait le peser, on l'emballait, pyjama, et puis terminé. Autant maintenant, depuis quelques années, on s'en fout de savoir combien il pèse, quoi. C'est, on sort le gamin, on le pose sur maman, cordon même intact encore, qui bat encore, on le pose sur maman, et on le laisse. On lui met juste une couche pour éviter de devoir faire un petit peu de nettoyage après. Mais on va aller le mesurer ou lui mettre juste un petit body, un petit pyjama, juste au moment de remonter dans sa chambre en maternité. Mais on n'a aucun intérêt à aller l'embêter avant. Et ça, bah, y a peu de mamans qui le savent. Et du coup, bah, c'est important aussi pour nous de pouvoir anticiper.
Okay.
Comme ça, au moment où la maman accouche, elle sait que ce sera fait. Et que du coup, bah, elle n'aura pas besoin d'y penser, elle n'aura pas besoin de leur demander. Parce que quand on vient d'accoucher, on n'a pas envie de demander tout ça. Quoi. On a autre chose à faire.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Je ne savais pas, tu vois, que ça se faisait de plus en plus. Alors, j'ai Manu qui a d'ailleurs... participé à un épisode sur où il est passé par fausse couche, PMA, jumeaux,
une belle histoire.
Total, et qui demande en fait pourquoi selon les structures le conjoint peut être présent lors d'une césarienne ou alors c'est totalement interdit dans d'autres. Attendez dehors, monsieur. Alors je savais pas que tu pouvais en tant que conjoint tu pouvais être présent lors d'une césarienne.
Alors l'idée, là, en ce moment, dans tout ce qui est contact avec le couple, c'est la proximité au maximum. C'est-à-dire que ce soit la proximité de maman avec papa, de papa avec bébé, de maman avec bébé. Il y a certaines structures, effectivement, je pense surtout aux cliniques ou à des structures qui sont un petit peu plus petites. On est sur un fonctionnement de bloc opératoire assez classique, ce qui fait que... dans la réglementation, on ne peut pas faire rentrer du public comme ça pour des raisons X ou Y, bonnes ou pas, je ne sais pas. Je ne travaille pas pour, là-bas pour dire si c'est bien ou pas. Dans de plus en plus de maternités, je ne vais pas dire qu'on incite, mais on le propose. Au moins pour les césariennes programmées ou sans urgence ultime.
Oui, okay.
Simplement parce que une fois que le bébé est né... Bon, une césarienne, ça dure une heure à peu près. Le bébé est né au bout de 10 minutes. Le reste, bah, c'est s'assurer que les saignements vont bien, c'est suturer, c'est faire le pansement et tout ça. Pendant ce temps-là, soit on installe bébé en pot à pot sur maman, mais sachant qu'il y a des champs opératoires et tout ça, c'est pas hyper pratique. Ou alors on peut proposer de faire le pot à pot sur papa.
Okay.
Et ce qui fait que bah, nous, des fois, ça nous arrive d'installer papa juste à côté de maman, du côté des anesthésistes, donc vraiment du côté de la tête de maman avec bébé, ou alors dans une petite pièce à côté où on a fait l'accueil de bébé avec papa et tout ça. Et puis c'est important aussi pour le couple que la maman soit pas toute seule. On a beau être super sympa, les anesthésistes et les infirmiers anesthésistes ont beau être le plus rassurant possible. L'idéal, c'est quand même d'avoir son conjoint avec soi, de se dire voilà, lui au moins il est avec moi. Je sais pas ce qu'il fera, mais il pourra me sauver si j'ai besoin. Après,
ça se fait pas dans toutes les structures.
Dans toutes les structures, ça se fait pas. Je disais surtout les petites maternités où le bloc de césarienne fait partie du bloc général.
Okay.
Là, ça se fait moins. Et puis après, les césariennes qui sont faites en urgence, où il y a besoin de faire une anesthésie générale chez la maman. Généralement, dans ces cas-là, on doit placer un tube dans la trachée de la maman. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin,
c'est beau
pareil.
Cool,
voilà, c'est beau. On préfère que papa soit dans la petite pièce à côté, auprès de bébé, pour son accueil, qu'il fasse du pot à pot. C'est jamais agréable pour un papa de voir sa compagne anesthésie générale avec un tube dans la gorge. Enfin, c'est pas l'idéal. Et puis, quand on a de l'urgence, on n'a pas le temps d'expliquer. On n'a pas le temps. Enfin, on a le temps, mais c'est mal fait. On préfère dire installez-vous ici, on vient vous chercher pour bébé, on va s'occuper de votre dame. Je vous explique tout ce qui s'est passé après, mais pour l'instant, on a besoin d'agir.
En tout cas, ça vaut la peine, veux dire que ça vaut la peine de poser la question.
Il y a des centres, ne serait-ce que dans la région ici, il y a des centres qui le font, il y en a qui ne le font pas. Nous, plus de la moitié des césariennes, on a le papa qui est présent. Okay. Dans quasiment toutes les césariennes programmées, c'est même incité. Mais alors après, voilà, c'est un travail qui est fait par les équipes. Je veux dire, il y a une dizaine d'années, il y avait zéro papa dans les salles de césarienne. Et c'est parce qu'on essaie de travailler là-dessus, que les anesthésistes acceptent, que les obstétriciens acceptent. C'est une petite logistique, mais
c'est hyper important. Je pense qu'en tant que parent, ça vaut la peine de poser la question pour faire au moins avancer les mentalités.
Carrément.
Quoi. C'est ce que tu as l'air de dire.
Ah ouais, ouais.
Ok. C'est cool. Ah. Alors moi, j'ai pas vraiment de questions, mais plutôt un thème à aborder qui reste assez peu connu si tu t'informes pas un peu de ton côté. La fameuse nuit de la Java. A.k.a. le pire moment de ta vie de jeune parent.
C'est clair.
Pour nous, en tout cas. C'est important d'y être préparé à l'avance pour pouvoir y survivre. Alors, c'est quoi la nuit de la Java?
Alors, la nuit de la Java. ce que je disais tout à l'heure, c'est les petites surprises qu'on a en maternité. Généralement, c'est au bout de 48 heures, 48, 72 heures. Moi, je vais dire ce que j'explique à peu près à mes parents. C'est que...
mes
couples. C'est que généralement, bébé arrive, il est un petit peu fatigué, il est un petit peu sonné par tout ce qui s'est passé, il dort beaucoup. La première nuit, souvent, les mamans nous disent « Ah, je suis contente, je m'étais préparée à ce qu'il pleure toute la nuit, en fait, il a bien dormi, c'est chouette. » C'est la deuxième nuit. C'est la deuxième nuit où là, ce qu'on appelle la nuit de la Java, c'est parce que ça coïncide avec la montée de lait de la maman. Montée de lait... On revient toujours, on est des animaux, c'est naturellement, une maman va avoir une montée de lait, donc elle va commencer à produire du lait. Mais la condition pour que ça se développe et pour que y ait de plus en plus de lait, c'est qu'il faut qu'il y ait un bébé qui stimule. Et au bout des 48 heures, y a un petit truc qui se déclenche dans le cerveau de bébé et qui fait que là, il va commencer à stimuler. Et quand il veut stimuler, y a des gamins qui peuvent être non-stop au sein. Et du coup, ça veut dire que la nuit, il va pleurer beaucoup, il va avoir beaucoup besoin de contact, beaucoup besoin de téter, ça peut être difficile parce que ça peut être une maman qui a un peu mal suite à son accouchement, ça peut être un papa qui a mal dormi après la nuit précédente, une maman qui a mal dormi, on n'est pas chez soi, on est à l'hôpital, enfin c'est un peu l'enfer. Et moi j'ai bossé en suite de naissance, j'étais fixe de nuit pendant plusieurs mois, donc c'était mon dada, c'était ça. C'était les parents que je retrouvais sur le coup de 2-3 heures du matin, au bout de leur vie, à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il pleure, je comprends pas, et tout ça. » Mais le truc, c'est ça. C'est que, je sais plus comment il s'appelait l'auditeur, on n'en parle pas.
C'est dodo.
C'est ça. C'est que dans beaucoup de préparations à la naissance, on parle de avant l'accouchement, mais on parle pas de après. Et la nuit de la Java, pour moi, ça devrait faire partie d'une séance complète. C'est que, voilà, c'est le moment où vraiment c'est dur. Et c'est normal. C'est que c'est un peu comme l'accouchement. C'est dur, mais c'est normal. Et c'est tout. Là, ce bébé, il a juste besoin de confort. Il a juste besoin d'être près de sa maman. Il a besoin de manger. Et on aurait vite fait de demander, et puis il y a quelques années ça se faisait, c'est « Ah oh bah tiens, le bébé il pleure beaucoup, on va le mettre en nurserie pour que maman elle puisse se réveiller, se reposer. » Non, il faut que ce bébé il soit auprès de sa maman, il faut qu'il y ait ce contact qui se crée. C'est un moment qui est hyper important. Et moi j'avais l'habitude de dire, alors il faudrait que je revérifie mes sources de statistiques, mais j'avais lu ça quelque part. La première année du bébé, accroche-toi bien, c'est 182 nuits de sommeil. Bon, tout est pour tout mis au bout à bout en moins. Comparé.
Ouais.
avant la naissance de ton gamin, tu fais des bonnes nuits de sommeil, des belles grasses mat et tout ça. La première année de ton bébé, en moyenne, tu réduis ta durée de nuit, tu fais des nuits blanches et sur une année complète,
ça fait
quasiment la moitié de tes nuits en moins. Et du coup, généralement, en fin de la deuxième nuit, je leur dis, allez, vous en avez déjà fait deux, plus que 180. Mais non, mais c'est hyper important, il a raison. C'est important d'en parler, c'est important que les gens soient préparés. Voilà, il y a beaucoup de monde qui pense, et je pense surtout aux visites en maternité. Combien de fois on voit en maternité ? Alors après, les familles sont là, les familles des amis, ils pensent bien faire. Oui, on va aller voir machin, elle a accouché, on va aller voir le petit bébé et tout ça. Non, foutez-leur la paix. Enfin, je veux dire, dans une semaine, dans deux mois, il sera encore là. Allez-y à ce moment-là, quand elle sera installée, quand ça va rouler. Là, elle a juste besoin de se reposer. Le matin, on les voit, mais démolies. L'après-midi, elles ont des visites, elles osent pas dire. C'est pas qu'elles veulent voir personne, mais elles ont envie de se reposer, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut en parler plus avant, effectivement. Il faut en parler plus.
J'ai, dans un épisode que j'ai pas encore diffusé, mais qui va arriver bientôt, donc qui sera diffusé à ce moment-là, avec Séjo notamment, qui raconte qu'il s'est pris la tête avec ses parents parce que ses parents voulaient bien faire et voulaient être là, alors que lui disait, mais en fait, ne venez pas foutez-nous la paix pendant ces quelques jours-là où on a besoin de se reposer.
C'est ça.
Et ça avait l'air d'avoir été dur au sein de leur famille, mais je pense que c'est un vrai truc à dire à sa famille, en fait.
C'est ça.
Si vous le sentez pas.
Moi, je propose souvent, quand je vois que franchement, c'est dur niveau fatigue, parce que niveau moral aussi, c'est compliqué. La dépression du postpartum, c'est une réalité. Moi, je propose souvent aux patients de dire simplement, est-ce que vous voulez que nous, en tant qu'équipe médicale, disent non? Parce que souvent, ils n'osent pas trop dire et machin, c'est tout. On met une pancarte sur la porte, maman est fatiguée, merci de repasser plus tard, point. Et après, mais c'est l'équipe, elles ne veulent pas, nanana. On s'en fout, on veut bien passer pour les méchants, mais il faut qu'ils se reposent. Et alors après, l'avantage, c'est que maintenant... l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais les séjours en maternité sont de plus en plus courts. Ce qui fait que... faut profiter de ce moment-là pour essayer de se reposer au maximum. Parce qu'une fois arrivé à la maison, c'est reparti pour les lessives, c'est parti pour faire les courses, c'est parti pour... En plus, tout ça avec un nouveau colocataire, là, on ne sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas comment il parle. Là, en maternité, c'est pas un hôtel de grande qualité, mais au moins, la nourriture, elle est faite, le linge, il est fait, on se repose, quoi. Et on a autre chose à faire que de recevoir tati, mamie, et ça, on pourra le faire dans un mois.
Donc, ton conseil aussi, c'est de dire, vous pouvez demander éventuellement au personnel de jouer le rôle du méchant.
Carrément,
flic,
quoi. Des pancartes, on en met souvent pour dire non. Ou alors vous limitez, ou alors vous venez pas, mais...
Voilà.
C'est important.
Heureusement que vous êtes là. Est-ce que tu as un conseil général à donner au futur papa qui écoute, ou au futur maman d'ailleurs, mais plutôt a priori au futur papa, qui écoute cet épisode ?
Un conseil un conseil, ce serait de laisser tomber tous ces préjugés, tous ces espoirs, mais toutes ces... Non, il faut garder de l'espoir, c'est important. Mais toutes ces idées préconçues, il faut rester esprit ouvert et se dire, c'est tout. J'avais prévu que ça soit comme ça, mais a priori, ça va se passer autrement. C'est tout, ça va se passer comme ça, et puis ça sera très bien aussi. Et puis tant pis, quoi, la Terre va continuer de tourner. C'est vraiment une histoire de... faut relativiser les priorités, quoi. Et je pense qu'une grossesse et un bébé, c'est le truc qui te fait relativiser. Un truc qui te paraissait capital et le centre de ta vie quelques mois encore auparavant. Et tu te dis, mais comment je pourrais faire sans? Au final, tu fais sans parce que t'as pas le temps. Et c'est tout. Et la Terre, elle continue de tourner. Ça se passe très bien. Et puis voilà.
Merci beaucoup, Harold.
Mais de rien.
C'était super bien. Écoute, peut-être qu'on refera un autre épisode.
Avec plaisir.
Si les gens me posent d'autres questions, je t'en ferai peut-être signe dans quelques mois.
Il n'y a pas de souci.
Un grand merci d'être venu jusque-là.
De rien.
Et puis, si vous avez envie de rencontrer Harold, surtout n'hésitez pas, venez accoucher à Jeanne à Lille.
Quand vous voulez, 7/7, 24/24.
Merci beaucoup.
De rien, salut.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, bien sûr. Ou alors sur mon Instagram, je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, je ferai en sorte de vous répondre. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, ça sera le premier lundi du mois de septembre, ça sera le lundi 3 septembre 2018. Je vous souhaite d'ici là une très belle fin de mois d'août et une très belle vie bien sûr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.